Continue à 5h43, temps universel, c'est l'heure du journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
En football, fin de parcours pour le champion en titre de la CAN U17.
Le Sénégal éliminé hier soir aux portes des demi-finales. Les Lyonceaux battus par la Côte d'Ivoire, 5 tirs au but à 3. Le Sénégal discipliné a dominé la rencontre, mais il a raté deux belles occasions en fin de match. Un peu le symbole de la CAN des Sénégalais, qui auront été l'une des meilleures défenses du tournoi, mais qui doivent encore progresser en attaque selon leur sélectionneur, Papi Brahima Faye.
Notre chantier, c'est vraiment l'attaque, hein? Les combinaisons en attaque, le jeu de finition. On a appris aux jeunes démarrer le jeu par derrière, créer les appels de balle vers l'avant. Tout ça, maintenant, ils le comprennent. Mais malheureusement, le chantier reste l'attaque. Et donc, puisque nous sommes toujours en formation, ils ont l'âge de la formation, c'est des moins de 17 ans. Donc le travail continue. Nous allons appesantir le travail dans l'aspect offensif, essayer de scorer et de marquer des buts. Nous sommes dans un processus de formation et nous continuons dans ça. Défaite ou pas défaite, Côte d'Ivoire ou un autre pays, nous restons jeunes et nous sommes dans notre logique formatrice. Et très sincèrement, je ne suis pas déçu. Ce que j'ai aimé, c'est la production des deux côtés, des enfants de la formation. Que ça soit ivoirien, que ça soit sénégalais.
Papi Brahima Faye avec Mathias Reynal, la Côte d'Ivoire qui affrontera le Maroc mardi en demi-finale. En attendant, ce samedi, deux matchs de barrage pour la Coupe du Monde U17, Ouganda-Gambie à 16h TU et Égypte-Angola à 19h temps universel.
En cyclisme, pas de changement en tête de la route de l'Est international en Côte d'Ivoire.
Non, la passe de 3 pour Daniel Bichmann, déjà vainqueur des deux premières étapes. Il a récidivé à Bengourou. Le Suisse et sa formation clairement en contrôle sur ce tour grâce en partie à leur supériorité technologique, c'est ce qu'a pu constater notre envoyé spécial Molamine Sissavané.
Pour son talent avéré, Daniel Bichmann, vainqueur du Tour de Faso en 2021, n'est pas n'importe quel athlète, dit d'entrée de jeu son directeur technique. Mais Jean-Jacques Lou admet que le matériel de son équipe est un cran au-dessus.
C'est surtout au niveau des roues. Peu d'Africains ont des roues carbone. Alors, on sait que la roue, ça apporte énormément à la réussite du coureur.
Le coureur Olivier Kouamé, capitaine de la SOA Club Ivoirien, constate avec acuité le contraste entre le matériel de l'équipe suisse et le leur.
Nous, on a encore sur les vélos de 2004. Pourtant, aujourd'hui, ils ont des vélos de haut niveau, 2025 déjà. Et ils ont des roues en carbone, le vélo même en carbone et les vrais guidons. Lorsqu'ils mettent leur rythme, il faut avoir encore des vitesses réserves pour pouvoir venir à leur niveau. Mais on n'a pas ces gens de vitesse-là.
C'est donc à juste titre que le coureur suisse contrôle la course aux grandes dames des clubs africains, quelque peu défavorisés. Jean-Jacques Lou.
On voit des petites équipes qui sont peut-être pas si bien équipées. Je regardais tout à l'heure des poignées de frein, il y a eu des chutes, c'est un petit peu du bricolage. Mais par contre, il y a aussi des Africains qui sont avec des bons vélos. Ça, il faut le dire.
Olivier Kouamé et ses coéquipiers, qui en appellent au ministère des Sports et à la Fédération, voudraient avoir du matériel de meilleure qualité pour une pratique de la petite reine tout aussi meilleure. Molamine Sissavané à Bengourou, RFI.
Et Antoine, un mot de basket pour finir.
Avec la suite de la conférence Kalahari de la Basketball Africa League, à 14h, temps universel, l'Alitia d'Alexandrie, leader, affronte le deuxième River Hoopers. Le stade malien, lui, jouera contre le FUS Rabat à 18h TU.
Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une aujourd'hui, la reprise des discussions États-Unis-Iran sur le nucléaire iranien, des pourparlers à Oman et l'avertissement de Donald Trump en préambule. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires, dit le président américain. Donald Trump, qui dans un autre dossier, appelle la Russie à se bouger pour trouver une issue au conflit en Ukraine. Son émissaire Steve Witkoff a rencontré hier Vladimir Poutine à Moscou. Pas de détails sur leurs échanges, mais le porte-parole du Kremlin avait déclaré en avance ne pas attendre de percer lors de cette entrevue. Dans l'actualité également, l'Argentine et cet accord de prêt avec le Fonds monétaire international pour 20 milliards de dollars. La Banque mondiale y ajoute 12 milliards. La Banque interaméricaine de développement accorde de son côté 10 milliards de dollars à l'Argentine. Des mesures sonnantes et trébuchantes pour permettre l'assouplissement du contrôle d'échange en vigueur depuis 2019 dans le pays, frappé par un endettement chronique et le risque récurrent de banqueroute. Et puis au Gabon, les bureaux de vote doivent ouvrir dans moins de 20 minutes, moins d'un quart d'heure même à présent, pour l'élection présidentielle, un peu plus d'un an et demi après le coup d'État opéré par le général Oligui Nguema. 8 candidats, dont le président de la transition. On appelle Yves Laurent Goma tout à l'heure à Libreville. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale et à la une, le Premier ministre François Bayrou dans l'embarras.
C'est l'affaire Betaram, du nom de cette école catholique où d'anciens élèves affirment avoir été violentés, y compris sexuellement, qui met François Bayrou dans une situation fort délicate. La photo du Premier ministre français est à la une de Libération avec ce titre « Bayrou plombé par sa mauvaise foi ». Le Premier ministre dont la vie personnelle et politique est intimement liée à l'institution catholique depuis 40 ans s'enferme dans un déni qui le fragilise, assène le quotidien français qui rappelle que le Premier ministre est accusé d'avoir non seulement été informé de ses affaires mais d'avoir tenté de les dissimuler. Sur ce point, Mediapart enfonce le clou. Le journal en ligne publie le témoignage d'un gendarme et d'un juge qui ont tenté d'enquêter en 1998, il y a près de 30 ans, et qui ont raconté devant une commission d'enquête parlementaire la manière dont François Bayrou aurait joué un rôle dans les investigations qui visaient l'ancien directeur de l'établissement catholique. Ce à quoi le Premier ministre a répliqué hier, les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres. François Bayrou assure, jamais de toute ma vie politique, je ne suis intervenu dans une affaire judiciaire. Il sera entendu le 14 mai prochain par la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires.
À la une également, Catherine, l'inquiétude qui s'amplifie autour des décisions prises par Donald Trump.
Il y a bien sûr la question des droits de douane sur laquelle le président américain a reculé cette semaine, excepté pour la Chine, mais ce n'est pas tout. Die Welt accuse Donald Trump d'alimenter la plus grande course à l'armement nucléaire depuis la guerre froide. En effet, estime le quotidien allemand, craignant que les États-Unis ne se retire de l'OTAN, de plus en plus de pays envisagent désormais de construire leur propre arsenal nucléaire. Die Welt souligne toutefois que le danger présenté par les armes nucléaires est très différent au XXe siècle, au XXIe siècle, de ce qu'il était au XXe siècle. Le journal rappelle que la puissance destructrice de ces armes nucléaires a incité au XXe siècle les États-Unis et l'Union soviétique à conclure une série d'accords de contrôle des armes qui ont finalement conduit à une réduction de leurs arsenaux. On en est loin aujourd'hui. Die Welt fait la liste des États qui ont récemment déclaré envisager d'acquérir l'arme atomique, à commencer par l'Allemagne, mais pas seulement. Il y a aussi la Pologne, la Turquie et même l'Arabie Saoudite. Sans oublier tous les pays qui travaillent depuis longtemps sur la question, notamment l'Iran. Et puis il y a bien sûr Vladimir Poutine qui a à plusieurs reprises laissé entendre qu'il pourrait utiliser des armes nucléaires dans le conflit ukrainien, rappelle Die Welt. Autant dire qu'avec Donald Trump, l'heure n'est pas à la sérénité.
Donald Trump dont il est aussi question au Proche-Orient, Catherine.
C'est l'Orient le jour qui met le sujet sur la table. Le quotidien francophone libanais se demande si le deal sur les otages annoncé par Trump peut faire plier Netanyahou. Le président américain, ajoute l'Orient le jour, se dit sur le point de récupérer les derniers otages aux mains du Hamas, faisant miroiter une trêve à l'heure où l'avenir des Gazaouis est plus menacé que jamais. Mais la prudence est de mise, l'annonce est à prendre avec des pincettes, estime l'Orient le jour, qui souligne l'inconsistance et l'illisibilité de l'actuel locataire de la Maison Blanche, vu avec le virage à 180 degrés de Donald Trump sur les tarifs douaniers. D'autre part, poursuit le journal, l'administration américaine a déjà essayé d'obtenir la libération du dernier otage israélo-américain détenu à Gaza, sans y parvenir. Dans le même temps, la guerre continue. L'armée israélienne n'a jamais été dans une telle position de force dans l'enclave occupée, nous dit l'Orient le jour. Environ la moitié de Gaza est actuellement sous son contrôle. L'ONU, de son côté, dénonce la reprise des bombardements israéliens, annonçant que 36 de ces bombardements sur 224 ont tué uniquement des femmes et des enfants.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup.
RFI Matin.
Bonjour Jean-Baptiste Placquin.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Diplomate de carrière, Essi Amara, le dernier ministre des Affaires étrangères de Félix Houphouët-Boigny, s'est éteint cette semaine à 82 ans. En quoi les hommages qui lui sont rendus se distinguent-ils des convenances habituelles, souvent teintées d'hypocrisie, qui saluent chaque disparition de personnalités publiques ?
Nul ne peut exclure que certains de ces hommages puissent manquer de sincérité. Mais Issi Amara était un diplomate d'envergure, d'une redoutable efficacité et surtout d'une discrétion et d'une humilité rares à un tel niveau. Sous toutes les latitudes, il a su brillamment représenter son pays. Il a même signé quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du continent, notamment en pilotant de 2001 à 2003 la mutation de l'Organisation de l'Unité africaine en Union africaine. Les colonnes d'apothéose dressées en sa mémoire sont donc méritées, particulièrement dans le contexte actuel d'incertitude généralisée avec tous ces dirigeants qui piaffent et vocifèrent, persuadés de faire la preuve de leur force ou de leur puissance en détraquant l'économie mondiale ou en détruisant le fragile équilibre du monde. Où sont donc dans la diplomatie africaine les Issi Amara d'aujourd'hui, si tant est qu'il y ait encore une diplomatie africaine? Aucun pays ne peut exister aux yeux du reste du monde sans une diplomatie solide avec un vivier de diplomates de qualité comme en avait constitué Félix Houphouët-Boigny, même si en plus de 30 ans de pouvoir, il n'a eu que 3 ministres des Affaires étrangères.
À quoi tenait donc leur durée de vie relativement longue ?
La diplomatie est un métier complexe dans lequel la stabilité peut être gage d'efficacité. Durant les 5 premières années d'indépendance, le président assumait lui-même cette fonction, ensuite confiée à Arsène Huchère Assouan, brillant avocat qui avait été son attaché de cabinet alors qu'il était ministre d'État dans le gouvernement français. En 1977, Huchère Assouan est remplacé par l'ambassadeur à Londres, Siméon Aké, à qui succédera Issi Amara en 1990. À la mort du vieux en décembre 1993, il sera reconduit par Henri Konan Bédier jusqu'au coup d'État de 1999. En Côte d'Ivoire, la diplomatie était un corps d'élite. Même lorsqu'ils ont par la suite assumé d'importantes autres fonctions, les grands diplomates ont toujours revendiqué leur rang d'ambassadeur comme un titre de noblesse. Dans l'administration de nombreux pays d'Afrique, le ministère des Affaires étrangères était de ces départements qui passaient autrefois pour des sanctuaires de compétences. Au même titre que l'économie, les finances, le plan, il fallait pour y officier justifier de compétences qui ne pouvaient s'improviser et certains postes importants n'étaient occupés que par des fonctionnaires qui avaient brillamment gravi tous les échelons. Avec le népotisme, le régionalisme, le favoritisme politique et l'incompétence qui va avec, ces administrations, presque partout, ont été peu à peu dépréciées.
Les cadres valables ont-ils pour autant disparu partout, Jean-Baptiste ?
Non, heureusement, mais à force d'arbitraire et de complaisance, bien des carrières ont pu être contrariées, poussant plus d'un au découragement, à la démotivation. L'excellence a fini par sombrer, les pistonnés et autres imposteurs éclipsant les meilleurs. Voilà comment un métier exigeant, sérieux et correction en permanence en est venu à être livré aux champions de la facilité et de la gloire à bon marché, se délectant de l'illusion de grands voyages, de réceptions, de paillettes et autres projecteurs éclatants. Et les diplomates dans bien des pays sont devenus des monstres de maladresse, bafouant au quotidien les convenances diplomatiques les plus élémentaires. Par la distinction et l'exemplarité qu'ils affichaient en toutes circonstances dans l'exercice de leur métier, les diplomates de la trempe d'Issi Amara suscitaient bien des vocations. On regrettera que la plupart n'aient pas laissé des écrits sur les grands moments de l'Afrique indépendante dont ils ont été témoins ou acteurs. Pour reprendre l'image d'Amadou Ampateba comparant à une bibliothèque qui brûle, tout vieillard qui meurt, il faut juste rappeler que les modèles africains de sérieux et de rigueur doivent être gravés avant que la superficialité ne vienne tout submerger.
Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup. RFI, bientôt 6h en temps universel, bientôt 7h à Libreville et 8h à Paris. Avant le journal, un peu de musique et un extrait du concert acoustique que Tiken Jaffa Coli donnait pour RFI. À la salle Playel à Paris, il y a quelques mois, un concert enregistré par nos amis de RFI Labo et le titre Tonton d'América pour vous donner envie d'y jeter une oreille.
Tonton d'América, Tonton d'América, Tonton d'América, Tonton d'América. Il est arrivé en Club Benz avec un drapeau. Voici du riz, il ne colle jamais. Il ne nous restait plus que la peau sur les os. Alors distribution de Dakar à Lomé. C'était du riz, l'engrais américain. Des sacs partout, mais pas un seul bouquin. Les hommes ont dit, puisque c'est dans les colis qu'on trouve à manger, nous on reste au lit. Il nous a donné la recette du bonheur. Il nous a même donné l'heure.
Tonton d'Amérique.
Aïe, aïe, aïe.
Tonton d'Amérique.
Aïe, aïe.
Tonton d'Amérique.
Oh.
Tonton d'Amérique.
Il est arrivé habillé comme un cow-boy. Il était beau comme un paquet de clopes. Avec dans sa route la dernière Game Boy. Et des jouets de toutes sortes. Des jouets qui valaient une fortune. Et une fusée pour aller sur la lune.
Oh. Tonton d'Amérique.
Oh.
Tonton d'Amérique.
Oh, oh.
Tonton d'Amérique.
Oh, 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 oh.
Tonton d'Amérique.
On a joué.
Tonton d'América, extrait du concert RFI à la salle Playel de Tiken Jafakoli, il y a quelques mois, enregistré par RFI Labo et le journal dans moins d'une minute sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Face à la guerre en Ukraine et aux menaces de la Russie, l'Europe veut se réarmer. Comment mobiliser les industries de défense ? Comment financer ces dépenses imprévues en pleine guerre commerciale ? Et alors que les tensions montent avec l'allié américain, on en parle avec nos invités.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.